filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9, une émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. Ça fait maintenant plus de 5 ans que ce rendez-vous hebdomadaire a lieu. Et je reçois aujourd'hui Tito Livio Rodrigues Santos Mota, qui est donc le président de Casamadis et qui va nous parler durant cette heure de son petit voyage qu'il vient de faire au Portugal et des contacts qu'il a pu nouer.
Et plus spécialement de festival Alcântara.
Oh, je sens que c'est un beau programme. Mais juste avant, on va rappeler les prochains rendez-vous de Casamadis. Le prochain rendez-vous, c'est demain avec notre repas républicain qui aura lieu donc à notre local, à l'espace Jacques Ier d'Aragon. 117 rue des États Généraux, 34 000 Montpellier. On fait un repas républicain puisque nous fêtons l'anniversaire de la République portugaise. C'est le 100e anniversaire, n'est-ce pas Tito ?
Absolument, et ça a fêté également par une exposition à partir du 4 octobre, puisque 4 octobre. Le 5 octobre, on fêtera le centenaire.
Voilà, donc tu es en train d'y travailler à cette exposition. Je pense que ça va être, on va avoir des belles choses.
J'étais au Portugal pour ça.
Voilà, par contre, ben, le repas, maintenant c'est complet. On a eu la confirmation, les dernières inscriptions hier. Donc c'est archi complet. Mais on en refera d'autres, rassurez-vous. Le prochain rendez-vous aussi avec Casamadis, c'est le festival des boutographies, le festival OFF qui a lieu du 3 au 30 mai 2010. Et Casamadis s'est associé à l'événement puisque nous faisons une exposition à Casamadis à partir donc du 22 mai, du 22 au 28 mai. Et c'est notre ami Ferdinand Fortes qui s'est occupé du dossier, donc il fait partie. Il y aura 3 photographes qui seront exposés à l'espace Jacques Ier. Il y aura Vanessa de la Terre qui a pris des photos du Brésil. Ferdinand Fortes, tiens, comment on le retrouve, qui lui a pris des photos de Montpellier. C'est une expo qu'il nourrit depuis plusieurs mois, des photos de Montpellier. L'exposition s'appelle Le piéton de Montpellier, un petit clin d'œil à Léon-Paul Fargue. Et une dernière photographe, je vais écorcher son nom parce que je la connais très bien, mais à chaque fois que je prononce son nom, je l'écorche, donc elle ne m'en voudra pas. C'est Fanny Duon-Hu. Elle me dira si j'ai écorché son nom. Ça a donc lieu du 22 au 28 mai. On va recevoir à filigrane imprécis toute l'équipe de ce festival. On les recevra le 22. Donc ils nous expliqueront un petit peu leur démarche un peu plus avant. Pour l'instant, on va faire une première pause musicale avant que Tito se retrouve dans ses papiers, dans tous ses comptes rendus de voyage. On se retrouve avec Missia, avec un disque qu'on a déjà passé, mais qu'on aime bien. Et donc on a décidé de remettre une petite couche.
Só uma pena me assiste, só uma pena me assiste e me alaga de tristeza. Não ser toalha de linho, não ser toalha de linho a cobrir a tua mesa. Não ser um jarro de vinho, não ser um jarro de vinho, não ser a fruta ou pão. Nem ser o talher de prata, nem ser o talher de prata. No calor da tua mão. Só uma pena me assiste, pena, que pena, não ser o pão que tu comes, pena, que pena, com esse trigo amassado mataria duas fomes. Ah, que pena. Só uma pena me assiste, pena, que pena, não ser convidado à mesa, pena, que pena, de coisas doces o prato da sobremesa. Que pena. As penas são os cristais, as penas são os cristais desta ceia cintilante. Mesmo amando-te demais, mesmo amando-te demais, nunca o amor é bastante. Nunca se morre de fome, nunca se morre de fome à amigo, amor, resiste. Mordo, corra e volta o nome. Mordo, corra e volta teu nome. Só esta pena, ui, me assiste. Só uma pena me assiste. Que pena, que pena, não ser o pão que tu comes. Que pena, que pena, com esse trigo amassado mataria duas fomes. Ah, que pena. Só uma pena me assiste. Que pena, não ser convidado à mesa. Que pena, que pena, doces o prato da sobremesa. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Ui, que pena. Só uma pena me assiste. Que pena, que pena, não ser convidado à mesa. Que pena, que pena, para te encher de coisas doces o prato da sobremesa. Ai, que pena.
Filigrane apprécie sur Divergence FM, donc Missia avec le titre, je vais essayer de le prononcer, ne te fous pas de moi Tito, Ike Pena.
Ike Pena, oui.
Voilà, ça va.
Oh, quel dommage.
Voilà, donc on a oublié quelque chose dans les activités, j'oublie toujours quelque chose, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à Casa Amadis, mais j'ai oublié le 9 mai, puisque le 9 mai c'est la journée de l'Europe et la mairie de Montpellier organise un événement qui aura lieu, donc place de la Comédie. Il y aura donc toutes les associations européennes de Montpellier qui seront présentes pour présenter leurs activités, pour présenter aussi les spécificités de leur pays
respectif. Et pas uniquement des pays de la communauté.
Ah, parce que toi tu étais à la Réunion hier.
Alors ça, tu peux nous en dire un petit mot. Il y aura absolument tout le monde qui a association à Montpellier, qui a pignon sur rue à Montpellier, indépendamment du fait que son pays soit ou pas dans la communauté européenne.
Ah, ça c'est une bonne chose, on va pouvoir rencontrer des gens. Alors peut-être qu'il y aura divergence présente, on ne sait pas encore, on est en train de voir, on est en train d'en discuter. Alors, donc ton voyage Tito... Par où on commence? Donc, t'es parti 15 jours, t'es parti pour.
Moi, je suis parti parce que, comme d'habitude, j'essaie d'aller quand il se passe des choses. Là, je suis très, très bien tombé. Ça ne pouvait mieux tomber. J'ai assisté à des choses très, très intéressantes et aussi j'ai pris de très, très bons contacts. Alors, on commence par le but premier qui était préparer la venue de l'exposition du néoréalisme spécialement sur Soir Pere Gomes, qui va venir de Villafranca de Chile, le musée du néoréalisme de Villafranca de Chile, et qui viendra donc à partir du 4 octobre.
Tu parles de l'expo, hein?
Oui. Et Madame le maire de Villafranca de Chile souhaite venir en visite officielle à Montpellier. On va s'occuper de ça, on est chargé de lui fournir les contacts et après, évidemment,
préciser,
ça ne dépend pas de nous puisque nous n'avons pas de titre officiel pour organiser ce genre de choses, mais elle viendra dans le cadre de nos activités à Montpellier, mais officiellement.
Peut-être préciser quand même quelle est l'importance de la ville de Villafranca de Chira.
Villafranca de Chira, c'est la plus vieille municipalité industrielle de la fin du 19e siècle. C'est pas la plus vieille ville industrielle du Portugal, loin de là, mais c'est la très grande industrie lourde et pratiquement née aussi à Barreiro, mais à Villafranca de Chira, se partage un peu cet honneur d'être les premiers, mais grâce à la cimenterie qui se trouve justement à Lindre, où se déroule le roman Esterge de Soir Pere Gomes. C'est une ville d'environ 170 000 habitants,
ah oui.
Ce qui est énorme pour le Portugal. Il y a trois grandes villes à l'intérieur de la municipalité, puisque notre organisation municipale est différente de la française. Mmh. Donc il y a trois grandes villes et un grand bourg qui est Ellendre, ainsi que des grands quartiers qui sont devenus des grands bourgs aussi, comme Saint-Hélier-d'Azoy par exemple, Boubadel. C'est juste à côté, mais c'est plus dans la municipalité. Je suis désolé, là, j'ai fait une gaffe. Mais bon, peu importe. Il y a des problèmes que je trouve que pour lesquels mon prix peut apporter son aide, notamment au niveau de l'urbanisme et des transports, puisque ce sont des villes pas tout à fait champignons. Villefranche-Cartier est une très très grande ville. Ellendre aussi sont des villes qui datent au moins de l'époque arabe. Mm-hmm. Villefranche-Cartier date du Moyen-Âge. Pauves son quartier de Pauves étant un village où on a trouvé des traces celtes. Donc ce sont des très très vieilles, de très vieux bourgs, mais les plans de nouveau quartier, puisque se trouve à un quart d'heure de Lisbonne par le train de banlieue. Et c'est aussi la capitale de la tauromachie.
Ah oui, c'est vrai.
La tauromachie, c'est donc extrêmement industriel. Alors pour Montpellier, je pense qu'il peut lui apporter beaucoup au niveau de l'urbanisme et du transport et des transports. Mais Villefranche-Cartier peut apporter quelque chose, deux choses assez intéressantes à Montpellier. D'abord, la pujance de sa vie associative au niveau, notamment des, ce qu'on appelle nous, sociedades récréatives, qui sont des structures culturelles du type Maison pour tous.
Oui, c'est ce que je veux dire, ça ressemble un petit peu aux Maisons pour tous.
Voilà, mais qui sont strictement associatives, mm-hmm. avec aide de la mairie, mais strictement associative, alors que les maisons pour tous sont des associations, mais sont des excrescences de la mairie. C'est dans l'autre sens que ça s'est passé chez nous, et notamment avant le 25 avril et l'engagement de l'État dans la culture. C'était vraiment les pôles de culture qu'il y avait dans nos villes et dans nos villages. Il y a aussi une autre chose que je crois, une expérience qu'ils peuvent nous apporter, c'est au niveau du musée municipal qui est dispersé dans les différentes villes de l'agglomération, puisque on peut parler d'agglomération, et qui sont très très bien faits, très proches du public, avec énormément d'activités, très très vivants, et je crois que ce serait bien intéressant pour Montpellier de pouvoir développer ce côté-là, puisque la muséologie... Muséographie à Montpellier, à mon avis, a du travail à faire.
Voilà. On va revenir à l'écrivain dont...
Tu ne parles pas de Musée Fabre, ça c'est autre chose.
Oui, ça c'est...
Bien entendu.
Hors concours. On va revenir un petit peu sur l'écrivain dont on va faire revenir une expo de Villafranca de Chir. Tu peux nous en dire un mot sur cet écrivain? Moi, je ne l'ai pas lu encore.
Sur le Prélegomes, alors, il y a une traduction que nous possédons d'ailleurs, qui a été faite après-guerre, par des éditions du Parti communiste, puisque le néoréalisme est un genre qui est né dans le milieu communiste. Mmh. Il est né au Portugal. Il est beaucoup plus connu en Italie, et à très forte raison, puisque le cinéma néoréaliste italien est extraordinaire. Mais il y a aussi une littérature italienne néoréaliste qui est très très importante. Au point de vue littéraire, il est né au Portugal. Et le cinéma portugais, même avec ses faibles moyens, puisque à l'époque, déjà la crise d'après-guerre était difficile, la Première Guerre mondiale, mais surtout le fascisme a fait, au contraire du fascisme italien qui, lui, a investi dans le cinéma, le fascisme portugais a combattu le cinéma. Mmh. Mais il y a quelques monuments comme Alain Ribes et Annick et Bobo et d'autres qui ont des signes avant-coureurs de l'imagerie néoréaliste.
Annick et Bobo, il vient avant le mouvement néoréaliste au cinéma.
Même si Alain Ribes, par exemple, a été fait par un fasciste. Mm-hmm. Mais après tout, le cinéma néoréaliste, chose que les gens ne savent pas forcément, est né dans Cinecittà, de metteurs en scène qui travaillaient pour Cinecittà, qui était dirigé par le fils de Mussolini. Et il est né dans ce bouillonnement du cinéma aidé par le fascisme. évidemment en se détachant,
Sûr.
Bien entendu, de cette emprise idéologique, même par son contraire le plus extrême qui était à l'époque le marxisme-léninisme. Et voilà. Et donc, donc une première importance. Donc, ce néoréalisme, c'est d'abreuver du Brésil, hein, notamment Jorge Amado, mais aussi des écrivains qu'on s'appelait de courant qu'on appelait modernisme et surtout régionalisme au Brésil, Lins do Rego, etc. Et aussi de d'écrivains comme Steinbeck aux États-Unis.
J'allais y venir.
Voilà. Alors tout ça, ça donc serait intéressant. Ça, je ne vous promets pas, mais j'y travaille en tout cas très fortement pour qu'on ait une conférence où j'aimerais bien que soient abordées les prémices. Les signes avant-coureurs avec notamment sur un travail sur quelqu'un qui nous parle de Jorge Amado et du régionalisme brésilien. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui nous parle de néoréalisme portugais et après quelqu'un qui j'aimerais qui nous parle de néoréalisme italien. Et comme ça, on aurait un regard transversal. L'exposition elle-même étant sur un écrivain particulier qui s'appelait Soer Pereira Gomes, qui était un monsieur qui a vécu dans Alhandra, petite ville que je connais bien, où je vais chaque fois au Portugal, qui est ma ville d'adoption, puisque je suis de Porto, et qui se trouve donc dans l'agglomération de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira qui a créé un musée, un immense musée, une merveille d'architecture et de présentation dirigé par un monsieur que je salue, David Silva, Santos, pardon, qui est vraiment une perle de directeur, qui fait vivre ce musée vraiment en dehors de tout ce qu'on peut s'attendre dans un musée de province, puisqu'il y a de la performance. Moi, j'ai assisté à une performance là en direct. Il invite des artistes contemporains. Vraiment, c'est très, très bien. Il y a des gens de très grande qualité qui viennent parler et des écrivains, surtout quand ils sont encore vivants, comme Juan Tavares Rodrigues, qui en rend hommage. Et c'est vraiment un très, très grand musée. Ils ont fait une magnifique exposition donc, sur Soer Pereira Gomes, qui a écrit donc, ce roman. Il a écrit d'autres choses, mais surtout ce roman qui est Esteiros. Esteiros, ils font un jeu de mots, d'ailleurs, dans le titre de l'exposition, entre Esteiros et Sentier. Hein, les sentiers de la liberté, mais Esteiros, parce qu'en portugais on peut le faire, Esteiros et Esteiros, mais Esteiros, ce sont ces doigts d'eau, en forme de doigts qui entrent dans la terre boueuse du bord du Tage, et il y avait les Tuileries, et où travaillaient des enfants, et donc son roman, c'est sur la condition de ses enfants. Alors, comme disait l'exposition, peut-être que ça n'existe plus tellement en Europe, mais ça existe toujours ailleurs. Moi, je ne suis pas si certain que ça n'existe pas en Europe, puisque, en tout cas, en Angleterre, le travail des enfants, ça existe. Et au Portugal, il n'est pas complètement éliminé, malgré une très grande, forte surveillance, notamment dans l'industrie de la chaussure. Il travaille à la maison, puisque quand c'est à la maison, difficile de contrôler. Et donc, on sait que ça existe néanmoins. Pourtant, c'est plus une réalité en soi, mais c'est une réalité qui existe. C'est magnifiquement écrit. Moi, j'avais un voisin qui était ouvrier à l'usine et sa femme aussi, et qui était ancienne employée aussi. Et le seul roman de leur vie qu'ils avaient lu était celui-là. Et ainsi, plusieurs personnes, parce que ça parle vraiment de quelque chose qu'ils ont vécu et c'est tellement proche des gens. C'est une écriture, j'aime beaucoup ce courant d'écriture qui n'est pas forcément néoréaliste, puisque le néoréalisme revient justement beaucoup à la rhétorique, par exemple.
Par
le biais de Camille Castelbranc, entre autres, mais qu'ils admiraient beaucoup. Redol, lui, il fait une écriture qui est plus de l'ordre de Julie Diniz, d'écrivain qui essaie de faire simple de rendre simple quelque chose d'extrêmement compliqué. Voilà, mmh. C'est plutôt ça, parce que c'est une écriture très écrit, c'est très 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 complexe comme écriture, mais c'est extrêmement simple à lire. C'est-à-dire, ça coule. Donc, n'importe qui peut lire Swell Prelegomsch. On a une sensation très agréable de simplicité. Et pourtant, c'est extrêmement travaillé, extrêmement écrit.
À propos de Rodol, j'aurais une petite information, puisqu'on a un adhérent de Casamadis qui est en train de faire sa thèse sur ce Rodol. Et donc, il viendra présenter sa thèse à Montpellier le 29 juin. Et donc, on le recevra à filigrane imprécis pour qu'il nous parle de cet auteur sur lequel il travaille.
Je profiterai pour lui demander s'il ne veut pas participer justement à cette table ronde. Je trouve que ce serait la personne indiquée.
Voilà, c'est à ça que je pensais. On va faire une petite pause musicale, toujours avec Missia, et on se retrouve juste après. Missia Ponto Final sur Filigrane Imprécis sur Divergence FM 93.9. Nous parlons donc.
Pour les nulles en langue, point final.
Pourquoi tu me regardes comme ça en disant ça? C'est très désagréable. Voilà, donc nous parlons ce matin du voyage qu'a fait Tito au Portugal ces 15 derniers jours et des contacts qu'il a pris et des expos qui vont venir. On parlait donc de l'expo sur cet écrivain. Donc Pereira Gomes. Alors à noter quand même, c'est que la traduction qui existe, nous qu'on a, date de l'après-guerre et qu'on va la revisiter avec Tito pour essayer de le refaire publier avec une traduction un peu plus moderne.
On essaie absolument de la faire publier, je trouve que ça mérite. Alors il y a... on n'aime pas en ce moment la littérature qui a l'air simple. Je crois qu'il y a du travail au niveau des études littéraires, puisque ce qui a l'air simple n'est pas forcément simpliste ou simplé. Mais j'ai bon espoir. En tout cas, la traduction sera mise à disposition, donc les gens pourront la lire. Et on va travailler pour qu'elle ait quand même en toute modestie, ou modestie à part plutôt, essayer de l'améliorer, quoi. Alors, justement, dans la foulée de ma visite, il y avait l'inauguration d'une exposition sur les camps de la mort au Portugal, puisqu'il y en a eu des camps de la mort.
C'est vrai qu'on l'ignore assez souvent. Ça. Il y a eu des camps de la mort.
C'est pas simplement des camps de concentration. C'était des camps qui avaient pour but de faire mourir les gens, non pas avec des chambres à gaz, mais par la mort lente. C'est-à-dire par les conditions de détention. Et donc, plus spécialement, sur un qui se trouvait au Cap-Vert, le plus connu, qui s'appelait Tarrafal. Il y avait le maire de Tarrafal, qui est une très jolie ville d'ailleurs. J'aimerais que soit faire venir quelque chose sur la petite ville de Tarrafal. Aussi, au moins quelques images pour que les gens voient qu'il y a les coins enchanteurs qu'il y a au Cap-Vert. Mais Tarrafal est donc ce camp de la mort qui avait au Cap-Vert, créé par Salazar. Et alors, j'ai tout de suite eu envie de la faire venir. J'ai eu la chance d'avoir tout de suite là, sur la main le commissaire de l'exposition qui m'a dit immédiatement oui. Il a dit oui. Et même, il m'a remercié de le proposer. Il a dit qu'il allait faire une version qui
exportable.
Est itinérante, mm-hmm. puisque elle n'est pas itinérante du tout, l'exposition qui est là-bas. Aussitôt qu'elle sera prête, on la fera venir. J'ai bon espoir pour 2011. J'aimerais bien que ce soit l'occasion du 25 avril. J'ai vu aussi un documentaire là-dessus qui était magnifique, surtout parce qu'il mettait l'accent. Il y a eu déjà deux autres documentaire fait sur les prisonniers portugais, et là elle a mis plutôt l'accent sur les prisonniers africains, des combattants de la liberté africains, et nous y sommes très attachés. S'il y a eu la révolution des œillets, c'est parce que les Africains se sont révoltés contre le colonialisme portugais. On ne sait pas combien le fascisme aurait duré encore au Portugal s'il ne s'était pas soulevé. Et donc, honneur aux Africains, honneur à ceux qui nous ont amené la liberté. De l'autre côté aussi, les Portugais ont bien contribué pour l'indépendance des colonies africaines. Il est bon que ça se dise aussi.
C'est pour ça que nous, à chaque fois qu'on célèbre le 25 avril à Casamadis, on célèbre aussi l'indépendance des pays africains lusophones. Et quand on a fêté les 30 ans de cette indépendance, de ces indépendances, on s'est aperçu que Casamadis a été la seule association de France à les commémorer. Et ça, c'est le consul de Saint-Thomé qui nous l'a fait remarquer.
Absolument. Là, il fête les 35 ans. Mais il fallait faire un choix, justement, parce que cette année, donc on a pensé que plutôt que fêter aux dates précises de 35 ans, plutôt fêter cette année le centenaire de la République.
Qui est aussi une date extrêmement importante.
Le choix d'être plus axé sur le Portugal cette année pour cette période 25 avril. Alors, pourquoi le 1er mai? Alors, le 1er mai, pourquoi pas fêter le 25 avril, le 1er mai? Parce que le 1er mai était le premier jour où nous sommes partis en liberté dans les rues, mmh. en absolue liberté. Et le 25 avril, nous sommes sortis pour soutenir la révolution. Mais c'est le 1er mai que nous sommes sortis enfin en liberté dans les rues et nous avons dit ce qu'on avait à dire, ce qu'on pouvait, ce qu'on savait dire. Et donc, ça a absolument tout sens, un sens très clair de fêter le 25 avril, le 1er mai.
Tout à fait. Donc, l'expo sur la République.
Alors, oui.
Parce qu'il va y avoir plusieurs expos au mois d'octobre. Hein.
Voilà, donc au mois d'octobre, on aura celle sur le néoréalisme et sur Soel Pereira Gomes. J'ai profité pour Tarrafal, hein, de mettre mon petit pied dedans. Mais j'ai travaillé pour notre exposition de la République. Donc, j'ai eu des bons contacts avec le musée. De la présidence, par exemple, avec celui de Bernardino Machado, Famalicão, Et donc, et par rafale, j'ai eu un pied dans la Fondation Marie Souache, qui est assez hermétique quand même, difficile d'approche.
Difficile d'accès, on a essayé très plusieurs difficile. Fois, c'est pas
monde,
évident.
Tout le monde me dit ça, c'est un très grand défaut à mon avis qu'ils ont, ils sont pas ouverts. Hein. Mais dès le moment qu'on trouve une petite porte d'entrée, après on est quand même bien accueillis.
On avait vu ça parce qu'ils avaient fait une expo sur Cabral, sur Amilcar Cabral, et il a été impossible de la faire venir, donc on avait fait notre propre expo, donc en 2005 on avait fait notre propre expo sur Amilcar Cabral, puisqu'on n'a pas pu faire venir celle donc de la Fondation Mario Suarez. Voilà.
Bon, on pourra la faire venir peut-être un jour, maintenant qu'on a un pied dedans, on ne sait jamais. Alors sur la République, donc, se dessinent quelques axes. La participation à la Première Guerre mondiale, la question des femmes, puisque les femmes ont quand même connu quelques avancées dans leurs droits sous la République et qui beaucoup ont été enlevées par la suite par Salazar.
Oui.
Les aspects sociaux et pourquoi pas dire un peu de mal aussi des républicains, hein, puisque
ils n'ont pas toujours été à la hauteur.
Ils n'ont pas du tout été à la hauteur, même s'il y a eu des avancées. Mais la République n'est pas tombée par hasard. La science, par exemple, et la laïcité, voilà, bien entendu, grande avancée de la République.
La séparation des églises et de l'État.
Et de l'État.
Qui est à chaque fois une avancée.
Voilà.
Il n'y en a pas tellement, tant que ça, en Europe, des pays qui connaissent une vraie séparation des églises.
Il n'y en a que deux. Hein.
Voilà. Contrairement à ce que l'on peut penser, une vraie séparation des églises et de l'État, il y a la France et le Portugal.
Absolument.
Les autres, il y a des concordats, il y a des compromis.
Il y a ce qu'ils appellent la liberté religieuse, mais ce n'est pas la même chose.
Ça n'est pas du tout la même chose.
Puisque l'État a le droit de vous dire, non, oui, peut-être vous avez la liberté de dire ça, mais moi, État, je vous dis que c'est le vrai Dieu, c'est celui-ci, la vraie religion, c'est celle-là. Et ça, c'est dans tous les États d'Europe, excepté au Portugal et en France. Même si, après, les dirigeants ne respectent pas forcément.
Ou essaye d'empiéter sur cette liberté.
Exactement.
On ne citera pas de nom.
Bon, tout le monde les connaît.
On refait une petite pause avec Misia.
Timbre perdesento nesse teu jeito. fechado de quem mói um sentimento. Ai, e é sempre a primeira vez em cada regresso a casa. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. Ai, e é sempre primeira vez em cada regresso a casa.
Filigrane apprécie sur Divergence FM Porto Sentido, si je l'ai bien prononcé.
Porto Sentido.
Voilà, je vais y arriver un jour. Et donc c'était Micia. Et nous parlons ce midi donc de Tito et de son voyage au Portugal, et des prochaines activités à venir de Casa Amadis, des expos. Donc on a essayé de voir un petit peu toutes les expos qui sont à venir. Et tu as été aussi au théâtre.
Oui, alors j'aimerais bien parler de deux pièces que j'ai vues. Une à Porto, c'est drôle parce que c'était dans les deux théâtres nationaux, une à Porto et l'autre à Lisbonne. Alors, San Juan de Porto, Théâtre National San Juan, j'ai vu Antigone de Sophocles.
Hein, donc Sophocles. Tu es revenu et tu m'en as parlé avec beaucoup d'enthousiasme.
Oui, dans une mise en scène de Nuno Carinhas, qui est l'actuel directeur, et dans une magnifique traduction. Je ne connais pas le grec ancien, mais... En portugais, c'était très, très, très beau, de Marta Várzeas, qui est une professeure à l'Université de Coimbra. Et en tout cas, elle domine très bien, je ne sais pas si elle domine le grec ancien, mais en tout cas, elle domine parfaitement la langue portugaise. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce travail. C'était condensé en 1h10, mais tout y était. Et il est axé sur le questionnement sur les frontières entre l'intégrité individuelle et les biens communs. L'intégrité dans le sens de caractère, de force de caractère. J'aime bien dans le programme, ils ont plusieurs questions. Alors il y a Caron qui pose la question, alors l'État n'est-ce pas à celui qui commande ? Réponse de Créon, réponse de Aimon, aucun État n'est à un seul homme. Mmh. Et Antigone qui dit, comment puis-je encore regarder les autres par les yeux des dieux, par le regard des dieux, ou à travers les dieux. Voilà, et c'était axé là-dessus. Le décor était somptueux. C'était un cratère qui évoque à la fois un volcan, une explosion ou un amphithéâtre, puisque c'était en forme d'amphithéâtre recouvert de liège, ce qui au Portugal a quand même un sens, puisque liège est un produit typiquement national. Donc, petit rappel du Portugal à travers ce liège qui recouvrait le décor. J'ai beaucoup aimé. Je suis allé avec des gens qui vont pas souvent au théâtre et qui étaient ravis de ce qu'ils ont vu et entendu. La salle était parfaite parce que Porto, à contrario de Lisbonne, est une ville où on va, mais pareil pour Montpellier, par rapport à Paris, les gens vont au théâtre non pas pour se montrer, mais pour assister. Et donc, c'est très agréable comme ambiance d'être parmi des gens qui sont vraiment, vraiment là pour le spectacle.
Qui aiment le théâtre.
Oui. Alors, Lisbonne, j'ai rien à dire par rapport au Théâtre National de Marie. À ce niveau-là, c'était aussi une salle très attentive. Là, c'était Miserere, qui est un titre inventé. C'était un collage de textes de Gilles Vicente,
ah oui,
du XVe siècle.
On en parle souvent, Filigrane, après Gilles Vicente. C'est une référence.
C'est mis en scène par Luis Miguel Sintra.
Qui est une pointure.
Voilà, et qui a voulu, surtout au moment où le pape a l'audace de venir au Portugal en pleine commémoration du centenaire de la République, je dis bien l'audace, puisque la République a toujours été l'ennemi, l'Église a toujours été l'ennemi de la République, la République n'étant pas l'ennemi de l'Église, sinon que par son opposition aux abus de l'Église. Donc choisir ces textes qui sont très difficiles à monter puisque normalement on donne une coloration bigote à ces textes de Gilles Vicente qui sont des textes à caractère religieux et notamment le jeu de l'âme qui est très bien traduit en français et qu'il y en a à Casamadis d'ailleurs vous pouvez le lire. Et il a décidé de les mettre hors contexte religieux et le fait dire dans une ambiance qui dit, on peut penser à un hôpital psychiatrique, en tout cas à une ambiance concentrationnaire en tout cas. Et les personnes disent ce texte sacré, entre guillemets, de façon profane et ça donne vraiment un éclaircissement au texte qui est très, 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 très novateur, très intéressant. Le seul reproche que je ferais, par contre, c'est à la direction d'acteur. Et ça, Luis Miguel Sintra, je trouve que c'est un peu indigne de monsieur aussi bien. C'est qu'il n'y avait que les vieux qu'on comprenait. Parce que les jeunes, ils nous disaient le texte, on comprenait rien.
Oh.
Alors, le portugais du 15e est tout à fait compréhensible. Au contraire du français, le portugais, on comprend très bien ce qu'on dit, à condition qu'il soit articulé. Et comme ils articulaient pas, eh bien, on ne comprenait rien. Voilà. Mais voilà, deux jolis travaux pour faire bref.
C'est curieux parce qu'on en parlait de l'articulation des comédiens. On en parlait il y a quelques jours avec Stanislas Nordet, puisqu'on avait vu Les Justes qui se jouent au 13 vents. Et là, c'est un de ses soucis à lui. Donc,
Et de ne pas tomber non plus dans du comédie française.
Voilà.
Et avec les liaisons, comme il disait, il faut éviter ça aussi, l'exagération de dire toutes les syllabes à la fin, les terminaisons et des trucs comme ça. Les moutons, hein, le juste milieu entre une bonne articulation et le classicisme bête. Je lui ai parlé justement de ce que j'avais vu de Luis Miguel Sintra et il était d'accord avec moi que c'est direction d'acteur. C'est que ça. Voilà.
Alors, on va revenir un tout petit peu sur Gilles Vicente, puisque c'est un auteur qu'on aime bien, nous, un auteur assez fondamental. Tu disais que c'était un texte religieux, mais il y a quand même des aspects assez anticléricaux chez Gilles Vicente, c'est-à-dire que le clergé, il en prend quand même pour son grade dans chacune des pièces.
Voilà, c'est ça aussi le point de départ de Luis Miguel Sintra, qui dit à quelqu'un qui a écrit des choses où il dit ses quatre vérités à l'Église et qui après fait des choses, d'accord, c'était des commandes, c'était un écrivain écrivain de cour, mais il est évident, il lui semblait évident que même dans ses textes religieux, il y avait quelque chose à tirer. Et la preuve, c'est qu'il en tire. Il en tire quelque chose. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, son travail. Il y a que ça. Il aurait dû faire un peu plus travailler certains acteurs sur l'articulation pour qu'on puisse comprendre la clarté. Je sais bien qu'il était sur scène, mais il aurait dû quand même.
Ça n'empêche pas.
Voilà, qui était la scène pour écouter. Là, c'était dur, des fois.
On va refaire une pause musicale, simplement. On va dire que l'abus de Dieu est dangereux pour la santé mentale. Filigrane apprécie sur Divergence FM 93.9 et donc avec Missia Acidad. Et nous parlons donc du voyage de Tito au Portugal et de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il aimerait nous faire voir. On a parlé un petit peu de théâtre, on a parlé d'exposition juste avant. Et tu voulais nous parler d'un festival.
Oui, alors j'avais même annoncé sur Internet que l'émission serait sur ce festival. En fait, on va faire une série d'émissions là-dessus et même avec la radio, Autoradio, qui va faire la couverture du festival, on va essayer de faire venir quelques sons de ce festival. Et compris dans filigrane précis ici même, notamment pour des interviews et des jeux croisés entre artistes portugais qui vont parler de leur travail et de ce qu'ils pensent de, notamment par exemple de la performance aujourd'hui.
Alors ce
avec
festival
Vera Manteiro, attention, Montpellierens connaissent bien Vera Manteiro et João Fiedel, eh bien il y aura et mon chouchou qui est Tiago Rodrigues qui vont parler de ces choses-là.
Alors, ce festival, il a lieu où, il a lieu quand, et c'est un festival de quoi exactement?
Alors, c'est une biennale à Lisbonne. Ça a commencé par être une biennale de danse. Il a lieu du 21 mai... Pardon, je regarde la date exacte. Je tourne la page pour ne pas vous mentir.
Ils ont un très grand programme. Donc ça va, vous allez entendre
magnifique,
des bruits de page.
Magnifique, splendide.
Oui, il est très beau.
Ça mérite quelques mots. Une prochaine émission sur le programme lui-même. C'est du 21 mai au 9 juin à Lisbonne. C'est une biennale, donc il n'y aura pas l'année prochaine. Il n'y en aura pas l'année prochaine et qui ouvre par un travail qui a été présenté à Montpellier à la Vignette qui s'appelle Radio Moésine de Stéphane Kaeji. Tout le monde a beaucoup aimé. Moi, je l'ai raté, malheureusement.
On en parlait avec Julia hors antenne tout à l'heure.
Voilà, mais tous les échos que j'ai eus m'attire énormément. J'ai vu des extraits lors de la présentation du festival à Lisbonne. Donc ça, c'était un petit pied de nez à Montpellier, un petit cocorico. Alors, il y a de tout. Il y a des arts plastiques maintenant. Il y a de la performance. Il y a de l'audiovisuel, donc de la vidéo, du travail en vidéo. Il y a même un reportage d'un Français. Mais toujours avec une très très grande exigence artistique, et il faut toujours que ça aille que ça ouvre des portes. Donc ils invitent des gens qui ouvrent des portes par leur travail. Après, toujours présenté à Montpellier déjà, il y aura Vera Manteiro and guests qui va présenter. Vamos sentir falta de tout aquilo que não precisamos. Nous allons sentir le manque de tout ce dont on n'a pas besoin. Et alors, Rita Natalio qui présentait, en absence de Vera Manteiro, elle était très drôle. Elle nous a parlé de tête vide, de tête pleine, de tête à moitié vide ou à moitié pleine, de tête vide qui ont besoin d'être remplies, de tête pleine de n'importe quoi, de tête à moitié pleine et à moitié vide, de choses dont on aurait besoin. Et voilà, pour Vera Manteiro, moi j'ai adoré ce que j'ai vu à Montpellier. Je crois que notre ami Manu qui a la technique, bonjour.
Je crois qu'il apprécie aussi.
Il a bien apprécié aussi. Après, il y a d'autres choses dont je veux vous parler. Là, je vais vous parler plutôt des Portugais, bien sûr. Il y a Tiago Rodrigues qui va nous présenter Si une Majanela se abrisse, si une fenêtre s'ouvrait, et qui est un travail sur le journal télévisé, donc sur le regard sur le monde. Alors, Tiago Rodrigues a travaillé avec Anne Teresa de Carles Marquer. Il est professeur invité au PARTS, qu'elle a créé, l'école qu'elle a créée à Bruxelles. Il travaille souvent en France. Je me pose la question pourquoi il n'est pas venu à Montpellier. Il m'a dit qu'il était passé à Montpellier il y a longtemps. Eh bien, il serait temps que notre centre chorégraphique l'invite et que le Festival Montpellier Danse le fasse venir.
L'appel est lancé.
Voilà. Et il est surtout un homme de théâtre, c'est vrai, mais il fait de la performance. Ses pièces sont toujours à cheval entre ces deux univers. Et donc, il serait tout à fait bienvenu de l'inviter.
Alors, oui. Autre chose, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce festival?
Alors, il y a d'autres choses.
On précise que le programme est très grand.
Est très énorme. J'ai beaucoup de
place.
De mal. Alors, j'ai été en contact donc, avec Autoradio, je crois que je vous en ai parlé.
Ça serait bien qu'on fasse filigrane, qu'on fasse un petit peu.
On va faire un filigrane spécial Alcantara, parce qu'il y a évidemment après, je vais ici, Savion Glover qui fait des claquettes, mais des claquettes d'une façon complètement en dehors de ce qu'on connaît, quelque part entre le reggae, le breakdance et les claquettes. Il y a un travail sur le servir. Ce sont des notamment par exemple une bonne coréenne, je crois aux Philippines. J'avoue mon ignorance parce que nous avons toujours tendance à mélanger la tête des gens. On se sent toujours très coupable parce que c'est à la limite raciste. Mais c'est un travail qui m'a semblé très très intéressant sur différentes univers de personnes qui servent. Il y a un truc chinois très très marrant d'Edith Kaldor dont le titre est en français. C'est du chinois. C'est du chinois. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a interpellé aussi? Ah oui, Renzo Martens, épisode 3, Enjoy Poverty, c'est un documentaire. On en parlera aussi de ça. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
Il me semble très riche, le festival.
Ah oui, c'est...
Beaucoup de choses.
Il y a des gens du nord de la France, je croyais que c'était des Belges. Alorige, Goerger et Antoine Dafourte. Il y a... comme ça, Vol d'Oiseau et Bruno Beltran, qu'on a vu à Montpellier l'année dernière, avec le groupe de roue de Niteroi, qui on a adoré au Théâtre des 13 Vents. C'était magnifique. Voilà, ce sera à Porto.
Manu dit oui.
Ah oui, oui, oui. Non, mais Manu, tu veux venir là-bas pour Alcantara? Oui, je crois qu'on est partants tous les deux. Il y aura du travail des étudiants de Arts, donc de cette école de Anne-Thérèse de Kersmarker. Il y a quelque chose de très, très, très marrant qui est fait dans un asile pour vieillards où on va passer la journée, on pourra entrer, sortir, il y aura des choses qui se passeront et avec les petits vieux qui collaborent et il y a eu un petit aperçu avec... une vieille dame qui chantait, qui poussait sa petite chansonnette, ça promet d'être très 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 bien. Anna Bourral et Jean Galante vont nous faire une performance, ça aussi il faudra développer. Le forum danse sera présent, alors le forum danse c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur chez nous en tant qu'école. Et qui travaille avec Parts, bien entendu, mais aussi avec, je vais essayer de le lire, Ebel Amhufer de Berlin, notamment. Et ce sont des étudiants venus un peu de partout, du Brésil, d'Espagne, d'Uruguay, du Portugal, qui vont présenter leur travail individuel, création individuelle. Il y a... donc Bruno Beltran, bien sûr, il y a Moscovite, mais dont le titre du travail s'appelle Berlin. Il y a des Japonais et Luis Guerre, qui va présenter un travail à partir de Christina de Pina, qui était une danseuse et plasticienne qui s'est suicidée et qui a laissé, avant de mourir, une espèce de testament par une fête où elle a réuni des gens, où Tania Carvalho était présente. Et donc, ils ont fait un travail là-dessus. Et donc, c'est Ur, Ar, Apre, Ir, Rou, Poum. Ce sont des onomatopées. Alors... un hommage à Christine de Pina. Voilà. C'est ce dont je voulais parler. Après, on fera le détail. Ça mérite beaucoup, beaucoup de détails.
Alors, on va rappeler quand même. On va rappeler les dates et où ça se passe. Si vous avez l'occasion d'être à Lisbonne à ce moment-là, n'hésitez pas.
Alors, profitez-en parce qu'il y a un nouveau vol low cost qui vient d'ouvrir à Carcassonne pour aller à Porto. De Porto, c'est 20 euros pour arriver à Lisbonne. Et il y a déjà des choses qui se passent à Porto, dont Bruno Beltran, par exemple, hein, au Théâtre Saint-Jean. Et après, pour faire la navette, c'est 20 euros par train, train corail ou à grande vitesse. Et vous pouvez faire la navette. Vous essayez d'avoir un low cost qui coûte des clopinettes. Porto, au contraire des aéroports français, vous arrivez dans le vrai aéroport et pas dans un hangar écarté de tout le monde. Et vous avez le train qui est dans l'aéroport. Donc vous avez le métro, le train, et après vous pouvez vous amuser à Porto et aller à Lisbonne voir le reste de la programmation.
Est-ce que tu peux nous retrouver donc les dates ?
Je suis en train de le faire, mon cher.
Mais comme le programme est...
Il est magnifique.
Il est magnifique, mais il est immense.
Moi, je crois que je vais arracher des pages pour faire des posters, et je ne rigole pas. C'est du 21 mai au 9 juin à Lisbonne et Porto.
Voilà, petite pause musicale et on se retrouve tout de suite.
Tristeza que vai, tristeza que vai. Sem você, meu amor, eu não sou. Ai, que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida.
Et voilà, on me fait signe que Filigrane imprécis, c'est terminé. On se quitte avec Missia. On rappelle que le 9 mai, on sera donc à la Comédie pour la Journée de l'Europe. Demain, il y a le repas de Casamadis, mais il est complet. Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine.
Avec Alcantara et le 22 mai, avec les Boutographies.
Avec les Boutographies.
Sozinha, tenho os olhos cansados de olhar.